Les trois autres l'avaient écouté avec attention. Joie hocha la tête, comme si c'était pour elle un récit déjà connu et dont elle aurait vérifié la précision du compte-rendu fait par Dom. Pellerat réagit en gardant près d'une minute un silence solennel, avant de refermer le poing et d'écraser le bras de son fauteuil. « Non !» dit-il d'une voix étranglée. « Cela ne change rien. Il n'y a aucun moyen de démontrer la véracité de cette histoire par l'observation ou par le raisonnement, et donc ce ne sera jamais qu'un exercice spéculatif. Mais cela mis à part, imaginez qu'elle soit vraie. L'univers dans lequel nous vivons est effectivement un univers dans lequel seule la Terre a vu se développer une vie pleine de richesses et une espèce intelligente, si bien que dans cet univers précis, qu'il soit seul et unique ou simplement un parmi une infinité de possibles, il doit fatalement y avoir quelque chose d'unique dans la nature de la planète Terre. Et donc, il nous restera toujours à chercher le pourquoi de cette originalité. »
Dans le silence qui s'ensuivit, Trévis fut le premier à se ressaisir. Il hocha la tête puis répondit. « Non, Janov, ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Disons que les chances sont d'une sur 1000 trillions, une sur 10^21, pour que, sur le milliard de planètes habitables que compte la galaxie, seule la Terre, par l'œuvre du plus pur des hasards, ait vu se développer une écologie complexe, et, au bout du compte, l'intelligence. Si tel est le cas, alors une sur 10^21 des diverses branches de réalité potentielle représenterait une galaxie répondant aux vœux des éternels. Nous vivons, par conséquent, dans un univers où la Terre est la seule planète où se soit développée une écologie complexe, une espèce intelligente, une haute technologie, non pas parce qu'elle a quelque chose de spécial, mais tout simplement parce que le hasard a voulu que ce développement ait lieu sur Terre et nulle part ailleurs. Je suppose, en fait, poursuivit-il pensivement, qu'il doit exister des branches de la réalité dans lesquelles Gaïa est la seule planète où s'est développée une espèce intelligente, Gaïa ou Seychelles ou Terminus, voire n'importe quelle planète, qui dans cette réalité-ci se trouve être totalement dépourvue de vie. Et tous ces cas si particuliers ne représentent jamais qu'un pourcentage dérisoire du nombre total de réalités dans lesquelles il y a plus d'une espèce intelligente dans la galaxie. Je suppose qu'en cherchant un peu plus, les Éternels auraient bien fini par trouver une trame de réalité potentielle dans laquelle toutes les planètes habitables sans exception auraient vu se développer une espèce intelligente.
« Mais, observa Pellerat, ne pourriez-vous pas envisager tout autant la découverte d'un plan de réalité dans lequel la Terre, pour une raison donnée, ne serait pas identique à ce qu'elle est dans les autres réalités potentielles, mais se montrerait au contraire particulièrement adaptée au développement de l'intelligence ? À vrai dire, on peut même aller plus loin encore et dire qu'on a trouvé une réalité dans laquelle c'est la galaxie tout entière qui diffère, mais qu'elle se trouve dans un stade de développement tel que finalement, seule la Terre y est en mesure de favoriser le développement de l'intelligence.
On peut toujours l'envisager, mais je suppose que c'est encore ma version qui est la plus logique.
Décision purement subjective, bien entendu, commença Pellerat avec une certaine chaleur, mais Dom les interrompit tous les deux.
« Je crois que vous êtes en train de couper les cheveux en quatre. Allons, ne gâchons pas ce qui s'est révélé du moins comme une soirée aussi agréable que délassante. »
Prenant sur lui, Pellerat se détendit, laissa retomber sa fougue, parvint enfin à sourire et dit
« Oui, vous avez raison, Dom. »
Trévis, qui n'avait cessé de reluquer Joie, restait bien sagement assise, mains croisées, avec un air de Sainte-Nitouche, relança. « Et quelles sont donc les origines de cette planète-ci, Dom ? Gaïa, avec sa conscience collective. » Dom renversa sa belle tête de vieillard et rit de sa voix de tête. Son visage était tout plissé lorsqu'il s'exclama.
« Encore des fables !» J'y pense quelquefois quand j'ai l'occasion de lire les quelques archives que nous pouvons avoir sur l'histoire de l'humanité. Quel que soit le soin avec lequel ces archives sont tenues, conservées, classées, informatisées, elles finissent par devenir floues avec le temps. Des histoires se bâtissent par accrétion. Des contes naissent par accumulation, comme des amoncellements de poussière. Plus le temps passe, et plus l'histoire devient poussiéreuse, pour finir par dégénérer en fable.
Nous autres historiens connaissons bien ce processus, Dom, dit Pellerat. Il existe un certain penchant pour la fable. Le faux théâtral chasse le vrai ennuyeux, disait déjà Liebel Generat il y a près de 15 siècles. On appelle aujourd'hui ça la loi de Generat.
Pas possible, fit Dom. Et moi qui croyais cette idée une invention cynique de ma part. Enfin, la loi de Generat redonne à notre histoire passée éclat et incertitude. Savez-vous ce qu'est un robot ?
On l'a découvert sur Seychelles, répondit sèchement Trévise.
Vous en avez vu un ?
Non. On nous avait posé la question et devant notre réponse négative, on nous l'a expliqué.
Je comprends. L'humanité vivait jadis avec les robots, voyez-vous, mais ça n'a pas très bien marché.
C'est ce qu'on nous a dit.
Les robots étaient très fortement conditionnés par ce qu'on appelle les trois lois de la robotique, lois qui remontent à la préhistoire. Il existe plusieurs versions de ce qu'auraient pu être ces trois lois. Dans la version orthodoxe, elles sont formulées ainsi. 1. Un robot ne peut blesser un être humain, ou par son inaction permettre qu'un être humain soit blessé. 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains, sauf quand de tels ordres s'opposent à la première loi. 3. Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection ne s'oppose pas à la première ou à la deuxième loi. À mesure qu'il devenait plus intelligent et plus universel, les robots s'étaient mis à interpréter ces lois, en particulier la toute-puissante première loi, dans un contexte de plus en plus large, assumant ainsi à un degré croissant le rôle de protecteur de l'humanité. Une protection envahissante et bientôt devenue insupportable. Les robots étaient d'une prévenance totale. Tous leurs actes étaient empreints d'humanité. Toutes leurs actions visaient exclusivement au bien de tous, ce qui d'un certain côté les rendait d'autant plus insupportables. Et chaque nouveau progrès de la robotique ne faisait qu'empirer la situation. On mit au point des robots à faculté télépathique. Mais cela signifiait qu'on pouvait désormais surveiller l'homme jusque dans ses pensées. Tant et si bien que le comportement humain devint encore plus dépendant de la surveillance des robots. Là encore, les robots étaient devenus de plus en plus semblables à l'homme par leur physique, mais ils restaient indubitablement robots par leur comportement, et cet aspect humanoïde les rendait d'autant plus répugnants. Tout cela, bien sûr, ne pouvait se prolonger éternellement.
Pourquoi, bien sûr ?
Demanda Pellerat, qui avait suivi son exposé avec la plus grande attention.
Simple question de logique menée jusqu'à son triste terme. Au bout du compte, les robots devinrent si perfectionnés qu'ils finirent par être assez proches de l'homme pour être enfin capables de saisir pourquoi ces derniers détestaient être privés de tout ce qui était humain au nom de leur propre bien. À long terme, les robots durent bien se rendre à l'évidence. L'humanité gagnerait peut-être à se débrouiller toute seule si inefficace et maladroite fut-elle. Par conséquent, nous dit-on, ce sont les robots qui instaurèrent l'éternité et qui devinrent eux-mêmes les éternels. Ils localisèrent une réalité dans laquelle, estimèrent-ils, les hommes seraient le plus en sécurité, seuls dans la galaxie. Puis, ayant fait ainsi leur possible pour nous protéger, et pour finir de se conformer à la première loi dans le sens le plus littéral du terme, les robots décidèrent d'eux-mêmes de cesser de fonctionner. Et, depuis, nous autres hommes avons continué comme nous avons pu sur la voie du progrès, mais seuls.
Dom marqua une pause. Son regard passa de Trévise à Pellerat.
« Eh bien, » dit-il, « est-ce que vous croyez à tout ça ?»
Trévise hocha lentement la tête. « Non, je n'ai souvenance de rien de semblable dans les chroniques historiques. Et vous, Janoff ?»«
Il y a bien des mythes assez similaires par certains côtés. » »«
Allons, Janoff, il y a des mythes qui pourraient coller avec n'importe quelle invention de notre part pourvu qu'on les interprète avec suffisamment d'ingéniosité. Moi, je parle de l'histoire, de documents fiables. »«
Ah bon ?» Alors là, je ne vois rien, autant que je sache.
Je n'en suis pas surpris,
intervint Dom.
dès avant le retrait des robots, quantité de groupes humains étaient partis coloniser des planètes dépourvues de robots jusque dans les tréfonds de l'espace, prenant ainsi eux-mêmes en main leur propre liberté. Ces hommes provenaient essentiellement de la Terre, alors surpeuplée et héritière d'une longue tradition de résistance aux robots. Ces nouveaux mondes repartirent de zéro, et leurs habitants ne voulurent même pas garder le souvenir amer d'une enfance humiliante sous la houlette de nounous robots. Ils n'en gardèrent aucune trace, et finirent par les oublier.
« C'est bien invraisemblable, » objecta Trévise. Pellorat se tourna vers lui.
« Cela n'a rien d'invraisemblable. Toutes les sociétés créent leur propre histoire et tendent à effacer leurs peu glorieux débuts, soit en les oubliant, soit en les occultant derrière le recours à des épisodes héroïques totalement fictifs. C'est ainsi que le gouvernement impérial fit plusieurs tentatives pour supprimer toute connaissance des périodes pré-impériales aux seules fins de renforcer son aura mystique de pouvoir éternel. Dans ce cas non plus, on ne possède presque aucun document sur les époques antérieures au voyage hyperspatial. Et vous savez aussi bien que moi que la plupart des gens aujourd'hui ignorent jusqu'à l'existence même de la Terre.
Vous ne pouvez pas avoir les deux, Janov. Si la galaxie a oublié l'existence des robots, comment se fait-il que Gaïa s'en souvienne ? Joie les interrompit soudain par son rire cascadant de soprano.
Nous sommes différents.
Ah oui, fit Trévise. En quoi ?
Ça va, Joie.
Intervint Dom.
« Laisse-moi leur expliquer. Nous sommes effectivement différents, hommes de Terminus. De tous les groupes de réfugiés qui avaient fui la domination robotique, celui qui avait débarqué sur Gaïa, suivant la trace de ceux qui avaient gagné Seychelles, le nôtre donc, était le seul groupe à avoir appris des robots l'art de la télépathie. Car on peut effectivement apprendre la télépathie, voyez-vous. Elle est inhérente à l'esprit humain, mais la développer se révèle un art aussi difficile que subtil. Il faut de nombreuses générations pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Mais une fois le processus convenablement enclenché, il s'entretient de lui-même. Nous nous y consacrons depuis plus de 20 000 ans, et le sentiment de Gaïa est que, même aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint notre plein potentiel. Il y a déjà bien longtemps que le développement de la télépathie nous a permis de détecter l'existence d'une conscience collective, d'abord au niveau seulement des êtres humains, puis des animaux, puis des plantes. Et finalement, il n'y a que quelques siècles, en incluant jusqu'à la structure inerte de la planète même. Et parce que nous faisons découler tout ceci des robots, nous ne les avons pas oubliés. Nous ne les avons jamais considérés comme des nounous, mais comme nos professeurs. Nous sentions qu'ils nous avaient ouvert l'esprit à quelque chose, et cela d'une manière qui allait être irréversible. Nous gardons d'eux un souvenir empli de gratitude.
Mais, observa Trévise, tout comme jadis vous étiez des enfants pour les robots, vous n'êtes aujourd'hui que des enfants devant cette conscience collective. N'avez-vous pas perdu votre humanité tout comme vous l'aviez perdue jadis ?
C'est différent, Trève. Ce que nous faisons aujourd'hui résulte de notre propre choix. Notre propre choix. C'est cela qui compte. Cela ne nous a pas été imposé du dehors, mais c'est venu de nous. C'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Et puis nous sommes également différents par un autre côté. Nous sommes uniques dans la galaxie. Il n'y a pas d'autre monde comme Gaïa.
Comment pouvez-vous en être sûr ?
On le saurait sinon, Trève. On pourrait détecter une conscience planétaire analogue à la nôtre, même si elle était à l'autre bout de la galaxie. Nous pouvons déjà déceler les prémices d'une telle conscience dans votre seconde fondation, par exemple, quoique depuis moins de 2 siècles.
L'époque du mulet, donc.
L'un des nôtres.
Dom prit un air attristé.
C'était un déviant. Et il nous a quittés. Nous étions assez naïfs pour croire la chose impossible, si bien que nous n'avons pas su réagir à temps pour l'en empêcher. Par la suite, quand notre attention fut portée vers les planètes extérieures, nous avons pris conscience de l'existence de ce que vous appelez la seconde fondation, et nous l'avons laissé se débrouiller avec le problème.
Trévise en resta un moment bouche bée, puis il marmotta
« Autant pour nos livres d'histoire. »
Hochant la tête, il reprit d'une voix plus forte « Une attitude plutôt lâche de la part de Gaïa, non ? Après tout, vous étiez responsable de lui. »
« Vous avez raison. Mais une fois que nous eûmes tourné nos regards vers la galaxie, nous y avons découvert ce que jusqu'alors nous avions été incapables de voir, si bien que la tragédie du mulet devait en fin de compte nous sauver la vie. C'est à cette époque que nous avons compris qu'une crise grave nous menaçait à plus ou moins brève échéance. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Mais pas avant que nous ayons pu prendre des mesures. Tout cela grâce à l'incident du mulet.
Quel genre de crise ?
Une crise qui nous menaçait de destruction.
Je ne peux pas le croire. Vous qui avez su contenir l'Empire, le mulet, Seychelles, vous possédez une conscience collective capable d'aller pêcher un vaisseau en plein espace à des millions de kilomètres de distance, que pourriez-vous craindre ? Tenez, regardez Joie. Elle ne m'a pas le moins du monde l'air perturbée. Elle ne pense pas qu'il y a une crise.
Joie avait passé une jambe bien galbée par-dessus le bras du fauteuil et elle agitait les orteils dans sa direction.
« Bien sûr que je n'ai pas peur, Trève. Vous saurez bien régler ça. »
Trévise bondit.
« Moi ?»
Dom crut bon d'expliquer.
« Gaïa vous a amené ici par le biais de 1000 manipulations habiles. C'est vous qui devrez affronter notre crise. »
Trévise le regarda avec ahurissement. Et lentement sur ses traits, la stupeur fit place à une rage grandissante.
« Moi ? Mais par tout l'espace, pourquoi moi ? Je n'ai rien à voir dans tout ça. » « Néanmoins, Trève, »
répéta Dom avec un calme quasiment hypnotique,
« c'est bien vous, et vous seul, dans tout l'espace. Oui. »